Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble ce soir dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard. Don Fabrice chercha un endroit où s'asseoir tranquillement, loin des hommes. Ses frères tant aimés, c'est entendu, mais toujours aussi ennuyeux. Il trouva rapidement ce qu'il lui fallait. La bibliothèque, petite, silencieuse, bien éclairée et vide. Il s'assit puis se releva pour prendre de l'eau sur une petite table. « Il n'y a que l'eau qui soit vraiment bonne à boire, » pensa-t-il, en bon sicilien. Et il se garda d'essuyer les petites gouttes qui restaient sur ses lèvres. Il s'assit de nouveau. La bibliothèque lui plaisait. Il s'y sentit vite à son aise. Il pouvait facilement en prendre possession, elle était impersonnelle, comme toute pièce peut habiter. Pantaleone n'était pas homme à perdre son temps là-dedans. Don Fabrice se mit à contempler un tableau accroché en face de lui. C'était une bonne copie de « La mort du juste » de Greuze. Le vieillard était en train d'expirer dans son lit, parmi les bouillonnements d'un linge immaculé, entouré de petits-fils affligés et de petites filles qui levaient les bras au ciel. Elles étaient gracieuses, lascives. Le désordre de leurs vêtements suggérait le libertinage plus que la douleur. On comprenait tout de suite qu'elles étaient le véritable sujet du tableau. Don Fabrice fut d'abord surpris que Diego aimât avoir sous les yeux cette scène mélancolique. Puis il se rassura en pensant que son ami ne devait guère entrer dans cette pièce plus de deux fois par an. Il se demanda ensuite si sa propre mort ressemblerait à celle-là. Oui, probablement. Mais le linge ne serait pas impeccable. Il savait bien, lui, que les draps qui désagonisant sont toujours sales, la bave, les déjections, les taches de potions. Il fallait aussi espérer que Conchetta, Caroline et les autres seraient plus décemment vêtus. Mais dans l'ensemble, ce serait le même tableau. Comme toujours, l'idée de sa propre mort le rassérénait, autant que le troublait la mort des autres. Peut-être parce que tout au fond de lui-même, il pensait que sa mort serait en premier lieu celle du monde entier. De là, sa pensée alla aux réparations qu'il faudrait faire au tombeau de famille chez les Capucins. Quel dommage qu'on n'ait plus le droit de suspendre les cadavres par le cou dans la crypte, comme autrefois. On pouvait les voir se momifier lentement. Il aurait eu grand air contre ce mur large et long comme il était. Il aurait pu épouvanter les jeunes filles avec l'immobile sourire de son visage parcheminé et ses pantalons de piqué blanc. Mais non, c'est vrai. On le revêtirait de son costume de gala, peut-être de ce même frac qu'il portait aujourd'hui. La porte s'ouvrit. « Tonton, tu es beau comme un astre ce soir. L'habit noir te va à la perfection. Mais qu'es-tu en train de regarder? Tu courtises la mort ?» Angélique était au bras de Tancrède. Encore sous l'influence sensuelle de la danse, il semblait là. Angélique s'assit et demanda à Tancrède un mouchoir afin de s'essuyer les tempes. Ce fut donc Fabrice qui lui donna le sien. Les jeunes gens regardaient le tableau avec une indifférence absolue. Leur connaissance de la mort était purement intellectuelle. C'était une des données de leur culture, sans plus, et non une expérience qui vous ronge la moelle des os. La mort existait sans aucun doute, mais pour les autres. C'est, pensa Don Fabrice, l'ignorance intime de cette suprême consolation qui rend les jeunes gens si vulnérables à la douleur. Les vieillards, eux, savent que la sortie n'est pas loin. Prince, déclara Angélique, on nous a dit que vous étiez ici. Nous sommes venus nous reposer, mais aussi vous demander quelque chose. J'espère que vous ne me le refuserez pas. Ses yeux riaient de malice. Sa main se posa sur la manche de Don Fabrice. « Je voulais vous demander de danser avec moi la prochaine mazurka. »« Dites oui, ne soyez pas méchant. On sait que vous étiez un merveilleux danseur. » Le prince fut ravi et se sentit tout ragaillardi. Il s'agissait bien de la crypte des Capucins. Ses joues velues frémirent de contentement. La mazurka l'effrayait cependant un peu. Cette danse militaire, tout en battements de pieds et en pirouettes, n'était plus faite pour ses jointures. S'agenouiller devant Angélique serait un plaisir, mais si ensuite il peinait pour se relever. « Merci, ma fille, tu me rajeunis. Je serai heureux de t'obéir, mais pas pour une mazurka. Accorde-moi la première valse. » Tu vois, Tancrède, comme l'oncle est gentil. Il ne fait pas de caprices comme toi. Savez-vous, prince, qu'il ne voulait pas que je vous demande cela? Il est jaloux. Tancrède riait. Quand on a un oncle beau et élégant comme lui, il faut bien être jaloux. Mais enfin, pour cette fois, je ne m'opposerai pas. Ils souriaient tous les trois. Don Fabrice se demanda s'ils avaient comploté cette proposition pour lui faire plaisir ou pour se moquer de lui. Bon, cela n'avait pas d'importance. C'était délicieux, en tout cas. En sortant, Angélique effleura du doigt la tapisserie d'un fauteuil. « Ah, qu'ils sont jolis! Quelle belle couleur! Mais ceux qui sont chez vous, prince !» Le navire continuait à courir sur son air. Tancrède intervint. « Cela suffit, Angélique. Nous t'aimons bien tous les deux, même sans ta culture en matière de mobilier. Laisse les chaises et viens danser. » Tandis qu'ils allaient vers la salle du bal, Don Fabrice vit que Cedara parlait encore avec Giovanni Finale. On entendait les mots Ruzzella, Primintio, Marzolino. Il comparait les mérites des graines et des semences. Le prince prit vite une imminente invitation à Margarossa, la propriété pour laquelle Finale était en train de se ruiner à force d'innovations agricoles. Le couple d'Angélique et de Don Fabrice eut un succès considérable. Les énormes pieds du cavalier se mouvaient avec une délicatesse surprenante, et pas une fois les petites chaussures de satin de sa dame ne coururent le danger d'être effleurées. La grande patte du prince serrait vigoureusement la taille de la jeune fille, son menton s'appuyait sur l'onde nocturne des cheveux. Le parfum du bouquet à la maréchale, et surtout l'arôme d'une peau jeune et lisse montait du décolleté d'Angélique. Une phrase de Touméo revint à l'esprit du prince. « Ces draps doivent avoir l'odeur du paradis. » Phrase inconvenante, phrase grossière mais exacte. Ah, ce Tancrède ! Elle parlait. Sa vanité naturelle n'était pas moins satisfaite que sa tenace ambition. « Je suis heureuse. Tout le monde a été si gentil et si bon. Et puis, Tancrède est un amour. Et vous aussi, vous êtes un amour. Tout ça, c'est à vous que je le dois. » Tancrède comprit. Parce que si vous aviez voulu, on sait bien comment les choses auraient tourné. Oh, je n'y suis pour rien, ma fille. Tu dois tout à toi-même, toi seule. Et c'était vrai. Aucun Tancrède n'aurait résisté à la beauté d'Angélique, unie à son patrimoine. Il l'aurait épousée en dépit de tous les obstacles. Une épine soudaine s'enfonça dans le cœur de Don Fabrice. Il venait de revoir les yeux hautains mais vaincus de Conchetta. Ce fut une brève douleur. À chaque tour de valse, une année lui tombait des épaules. Il se retrouva tel qu'il était à 20 ans, dansant dans ce même salon avec Stella, ignorant encore ce que sont les désillusions, l'ennui, le reste. Pendant une seconde cette nuit-là, la mort fut de nouveau à ses yeux pour les autres. Le bal continua longtemps encore, jusqu'à 6 heures du matin. Tout le monde était épuisé. Chacun aurait voulu être couché depuis au moins 3 heures. Mais s'en aller trop vite, c'eût été proclamer que la fête n'était pas réussie et offenser les maîtres de maison. Les pauvres s'étaient donné tant de peine. Le teint des femmes était livide, les robes froissées, les haleines lourdes. « Marie, que je suis fatiguée ! Oh Marie, que j'ai sommeil !» Au-dessus des cravates en désordre, les hommes montraient un visage jaune et rugueux. Leur bouche était pâteuse et amère. Ils visitaient de plus en plus souvent une petite pièce peu soignée au niveau de la loge d'orchestre. Là étaient disposés en bon ordre une 20aine de vastes pots de chambre, presque tous pleins désormais. Quelques-uns même débordaient. Voyant que le bal allait finir, les serviteurs ensommeillés ne changeaient plus les bougies. La cire mourante répandait dans les salons une lumière louche, fumeuse, de mauvais augure. Dans le buffet désert, il n'y avait plus que quelques restes démantelés, quelques verres où traînait un fond de vin que les laquais buvaient en hâte, l'œil aux aguets. La lueur de l'aube pénétrait par la fente des volets plébéiennes. Quand la famille Salina fut installée dans sa voiture, la rosée rendait les coussins humides, Don Fabrice déclara qu'il rentrerait à pied. La fraîcheur lui ferait du bien. Il avait un léger mal de tête. En vérité, il voulait puiser un peu de réconfort dans la contemplation des étoiles. On en voyait encore quelques-unes juste au zénith. Comme toujours, leur vue le ranima. Elles étaient lointaines, toutes puissantes, mais dociles à ses calculs, tout le contraire des hommes, qui sont trop proches, faibles et si rétifs. Il y avait déjà du mouvement dans les rues, quelques charrettes chargées de montagnes d'immondices, 4 fois plus hautes que le petit âne gris qu'il tirait. Un long chariot découvert portait entassé les bœufs qu'on venait de tuer à l'abattoir. Ils s'étaient partagés en 4 et exhibaient leurs mécanismes les plus intimes avec l'impudeur de la mort. Par intervalles, des gouttes de sang rouge, épais, tombaient sur la chaussée. Au fond d'une petite rue de traverse, on entrevit l'Orient au-dessus de la mer. Vénus brillait, enveloppée de son turban de vapeurs automnales. Toujours fidèle, elle attendait Don Fabrice à chacune de ses sorties matinales. À Donna Fugata, avant la chasse. Et maintenant, après le bal. Don Fabrice soupira. Quand se déciderait-elle à lui donner un rendez-vous moins éphémère, loin des épluchures et du sang, dans le domaine des certitudes éternelles ? Et donc, après ce moment musical, nous allons reprendre ensemble le dernier passage du roman de Lampedusa, Le Guépard.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Juillet 1883. Cette sensation, Don Fabrice l'avait toujours connue. Depuis des dizaines d'années, il sentait s'écouler hors de lui-même lentement, continuellement, le fluide vital, la faculté d'exister, la vie en somme, peut-être aussi la volonté de vivre. On eût dit les grains de sable serrés qui glissent un à un, sans hâte et sans relâche, par l'étroit orifice d'un sablier. Dans certains moments d'activité intense, de grandes attentions, ce sentiment de continuel abandon disparaissait, pour se représenter impassible, à la moindre occasion, au moindre silence, à la moindre tentative d'introspection. C'était comme un bourdonnement d'oreilles perpétuel, comme le battement d'une pendule qui s'impose lorsque tout se tait. Et l'on sait qu'ils ont toujours été là, vigilants, même quand on ne les entendait pas. Le reste du temps, il lui suffisait d'un peu d'attention pour entendre le froissement des grains de sable qui s'écoulaient légers, pour sentir les instants s'échapper de son esprit et le quitter à jamais. Au commencement, la sensation ne lui avait causé aucun malaise. Au contraire, cette imperceptible perte de vitalité était la preuve de sa vie, la condition, pour ainsi dire, du sentiment d'exister. Habitué à scruter des espaces extérieurs sans limite, comme à explorer de vastes abîmes intérieurs, il ne trouvait rien là de désagréable. Il percevait un effritement menu, ininterrompu, de sa personnalité. En même temps, un vague présage lui semblait annoncer que cette personnalité se recréait ailleurs, moins consciente, mais plus large, grâce à Dieu. Les grains de sable ne se perdaient pas, ils ne disparaissaient que pour aller s'accumuler en quelque endroit mystérieux et pour y cimenter une architecture plus durable. Parfois, il était surpris que le réservoir humain pût contenir encore un peu de vie après tant d'années de perte. Quand bien même il serait grand comme une pyramide, cela paraîtrait incroyable. D'autres fois, le plus souvent, il s'enorgueillissait d'être à peu près seul à prendre conscience de cette fuite continue, tandis qu'autour de lui, personne ne semblait éprouver pareille sensation. Il avait trouvé là motif à mépriser les autres. Ainsi, le vétéran méprise le conscrit qui se berce d'illusions que les balles sifflant autour de lui sont de grosses mouches inoffensives. Ce sont des choses que l'on n'avoue pas. Dieu sait pourquoi. Aux autres de les deviner. Personne autour de lui n'avait été capable de le faire, ni ses filles, qui rêvaient d'un outre-tombe identique à leur vie où tout se retrouverait, magistrat, cuisinier et couvent. Ni Stella, qui, dévorée par le diabète, ne s'en était pas moins accrochée misérablement à cette existence de douleur. Tancred seul, peut-être, avait compris. Durant quelques secondes, quand il avait déclaré avec sa frondeuse ironie: « Toi, tonton, tu courtises la mort. » Désormais, le prince avait fini de faire sa cour. La belle avait dit oui. L'enlèvement était décidé, le compartiment retenu dans le train. Car à présent, c'était une toute autre affaire. Assis dans un fauteuil, sur le balcon de l'hôtel Trinacria, ses longues jambes enveloppées d'une couverture, Don Fabrice sentait sa vie s'enfuir en larges vagues pressées, retentissant en lui avec le terrible fracas de la cascade du Rhin. C'était un lundi de la fin juillet, à midi. Et la mer de Palerme, compacte, huileuse, inerte, s'étendait devant lui invraisemblablement immobile, aplati comme un chien qui tente d'échapper au regard irrité de son maître. En vain. Le soleil impassible et perpendiculaire était planté au-dessus d'elle, les jambes écartées, et la fouettait sans pitié. Le silence régnait, absolu. Sous la haute lumière, Don Fabrice n'entendait que le son profond de la vie qui jaillissait hors de son corps. Il était arrivé le matin même de Naples. Il s'était rendu là-bas pour consulter le docteur Semmala, accompagné de Concetta. Elle avait maintenant 40 ans, et de son petit-fils Fabrice. Le voyage avait été lugubre, lent, comme une cérémonie funèbre. Le tumulte du port au départ et à l'arrivée, l'odeur âcre de la cabine, le fracas incessant de la ville paranoïaque l'avaient exaspéré. C'était une de ces irritations plaintives de malade qui, tout en les épuisant, irritent les bonnes gens auxquels il reste encore plus d'une année à vivre. Il prétendit donc revenir par terre. Cette décision fut combattue par les médecins. Il insista et l'ombre de son prestige était encore si imposante qu'il l'emporta. Le résultat fut désastreux. Il dut rester 36 heures parqué dans une boîte brûlante, suffoqué par la fumée des tunnels qui se répétaient comme autant de songes fiévreux, aveuglé par le soleil dans les passages découverts, explicites comme des brutales réalités, humilié par les menus et bas services qu'il devait demander aux petits garçons effrayés. On traversait des paysages maléfiques, des chaînes de montagnes maudites, des plaines engourdies dans la malaria. Ces panoramas de Calabre ou de Basilicate lui paraissaient barbares. Ce sont les mêmes pourtant que l'on rencontre en Sicile. La ligne de chemin de fer n'était pas encore achevée dans sa dernière partie, près de Reggio. Elle faisait un long détour par Metaponte à travers des étendues lunaires qui semblaient porter par dérision ces noms athlétiques et voluptueux, Crotone, Sibaris. À Messine, après le sourire menteur du détroit, immédiatement démenti par l'aridité des collines péloritaines, il y avait un nouveau détour long comme un cruel délai de procédure. On était descendu vers Catane. On avait grimpé jusqu'à Castelgiovanni. La locomotive, haletant le long des pentes fabuleuses, semblait prête à crever comme un cheval qu'on force. Enfin, après une plongée assourdissante, on était arrivé à Palerme. Sur le quai, comme toujours, les gens de la famille, avec leurs masques peints d'un sourire satisfait, saluant l'heureuse issue du voyage. Et ce fut le sourire consolant de ceux qui l'attendaient à la gare, ce fut leur air de feinte gaieté, une gaieté bien mal feinte, qui lui révélèrent le véritable sens du diagnostic. C'est alors, une fois descendu du train, tandis qu'il embrassait sa belle-fille, ensevelie dans ses voiles de veuve, ses fils, qui montraient leurs dents dans un sourire épanoui, Tancrède, qui le regardait avec anxiété, et Angélique, dont le corsage de soie se tendait sur des seins mûrs. C'est alors qu'il entendit le fracas de la cascade. Il s'était probablement évanoui, car il ne se rappelait plus comment il était arrivé à la voiture. Il s'y trouva étendu, les jambes engourdies en compagnie du seul Tancrède. On n'avait pas encore bougé. Il entendait des voix familières. « Mais ce n'est rien, le voyage a été trop long. Avec cette chaleur, n'importe qui s'évanouirait. Cela le fatiguerait trop d'aller jusqu'à la villa. » il était de nouveau parfaitement lucide. Il notait tout. Les propos sérieux de Conchetta et François Paul, l'élégance de Tancrède, son costume à petits carreaux marron et beige, son chapeau melon brun. Il remarqua que pour une fois le sourire de son neveu, au lieu d'être moqueur, se teintait d'affection mélancolique. Il se sentit envahi par une sensation aigre-douce. Il était aimé, mais il était perdu. Il sentit que ses mains ne serraient plus celles de ses deux compagnons. Tancrède se leva en hâte et sortit. Ce n'était plus un fleuve qui jaillissait de Don Fabrice, mais un océan orageux, hérissé d'écume et de vagues effrénées. Il dut avoir une seconde syncope, car il s'aperçut brusquement qu'on l'avait étendu sur le lit. Quelqu'un lui tâtait le pouls. L'éclat impitoyable de la mer entrant par la fenêtre l'aveuglait. On entendait un sifflement dans la chambre. C'était son râle, mais lui ne le savait pas. Il y avait autour de lui une petite foule, un groupe de personnes étrangères qui le regardaient fixement avec une expression d'angoisse. Peu à peu, il les reconnut. Conchetta, François Paul, Caroline, Tancrède, le petit Fabrice. Celui qui lui tenait le poignet, c'était le docteur Catagliotti. Il crut sourire pour lui souhaiter la bienvenue, mais personne ne s'en aperçut. Tous, sauf Conchetta, pleuraient. Tancrède aussi, qui répétait « Tonton, mon cher tonton ». Soudain, une jeune dame fendit le petit groupe. Svelte, elle portait un costume de voyage marron avec une ample tournure et un chapeau de paille orné d'une voilette à pois qui ne réussissait pas à cacher la grâce malicieuse de son visage. Elle insinuait une main gantée de daim entre les coudes de ces gens qui pleuraient. Elle s'excusait, s'approchait. C'était la créature désirée depuis toujours qui venait le prendre. Comme c'était étrange qu'elle se donnât à lui, jeune comme elle était. Le départ du train devait être tout proche. Arrivée en face de lui, elle souleva sa voilette et ainsi, pudique mais offerte, elle apparut plus belle encore qu'au temps où il l'entrevoyait dans les espaces stellaires. Le fracas de la mer se calma d'un seul coup.
Voilà, nous avons donc terminé ces extraits du roman de Giuseppe Tomazzi di Lampedusa, Le Guépard. Nous retrouverons la semaine prochaine nos lectures en liberté pour un autre texte. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.